Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 10e numéro du Player Club. C'est bien, on ajoute un second digit ce soir. Nous sommes le 24 novembre 2014, nous sommes un lundi et attention, ça déménage dans tous les sens avec mes trois invités avec qui, ben voilà, on va parler de rétro. Bonsoir JB.
Bonsoir.
Alors on te connaît évidemment des tauliers, on te lit aussi dans Pix and Love, mais on a l'occasion à la fois de te lire dans The Player et aussi dans un magazine rétro, sauf erreur.
Oui, qu'on a lancé il y a maintenant quelques mois avec le docteur Lacave, qui s'appelle donc Rétro vers le futur.
Très bien. Avec nous aussi, nous avons Camui, qui sera aussi parfois, je pense, appelé Daniel durant cette émission. Camui, bonsoir.
Salut.
Alors toi, on peut te lire à plein d'endroits sur Slate.fr, on peut aussi te lire chez Pixel, chez Le Monde, la rubrique Pixel du Monde, où ça parle beaucoup de jeux vidéo, il faut bien l'admettre. Et tu participes aussi à un podcast dédié aux comics.
Eh ouais, je participe aussi à Comics Outcast. Est diffusé le vendredi, un vendredi sur deux.
Exactement, et qui est produit par Radio Kawa, ne l'oublions pas évidemment.
Voilà, voilà.
Avec nous, un invité qui est passé il y a un bon moment, c'est Antistar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors t'étais passé à l'époque de Cold on Geek McRock pour parler de la Fédération Française de Super Mario Kart, dont tu fais toujours partie, ffsmk.org.
Exactement, oui, bah en fait c'est une association dont j'étais président à l'époque et dont je suis toujours président aujourd'hui, qui organise un championnat annuel international sur le tout premier Mario Kart sur Super Nintendo.
Et alors sans surprise, tu es un collectionneur, bah, notamment de jeux Mario, aussi de jeux Super Nintendo et d'autres choses à côté, je pense.
Oui, voilà, collectionneur, bah ça son mentalité de collectionneur de base, parce que j'ai collectionné et même continue de temps en temps de collectionner d'autres trucs, mais c'est vrai que j'ai une collection de jeux vidéo qui, bon, est pas mal freinée, mais qui est quand même
qui est bien encore bien en vie.
Assez conséquente, voilà, c'est ça.
Voilà.
Ah oui, j'aurais dû préciser que j'étais collectionneur aussi.
J'aurais dû préciser également, premier.
C'était juste pour faire un segue, simplement une transition vers le sujet de ce soir, qui est donc, eh bien, la collection et plus particulièrement le rétro. Comment acheter, comment vendre, les prix et les coûts du rétro gaming, on en parle ce soir, juste après la chronique de notre ami Nathan, alias Thomasaurus, qui va nous parler, eh bien, figurez-vous, de Stalker. C'est tout de suite dans le Player Club.
Le transmédia, c'est le fait de coordonner la sortie de produits relatifs à une même série sous des formats différents. En discours officiel, c'est permettre à un public élargi d'entrer dans une série par son médium favori pour dériver, ensuite, vers les autres et ainsi obtenir une vue d'ensemble. En langage marketing, c'est se faire un max de pognon en tirant sur la corde le plus possible, quitte à broder du vide avec un fil teinté au néant. Aussi vais-je vous parler aujourd'hui d'un cas à part dans le transmédia, un cas qui commence en 1972, se poursuit en 1979, se prolonge en 2007, en s'inspirant d'un drame de 1986, pour s'achever brutalement en 2012. Amis auditeurs, bienvenue dans la zone. Nous sommes en 1972 et si Pong sort cette même année, les frères russes Arkady et Boris Trugatsky, eux, s'apprêtent à sortir leur 12e roman. Considérés par certains comme les plus influents auteurs de science-fiction du monde russophone, les Trugatsky ont pour passion la création de dystopies humanistes, idéologiquement et socialement engagées. Dans Picnic au bord du chemin, l'humanité est entrée en contact avec des aliens. Ou plutôt, les aliens se sont rapidement posés sur Terre, sans qu'on sache trop pourquoi. Ils sont repartis en laissant leur zone d'appareillage, la zone, transformée. Cette zone, désormais gardée et inaccessible, n'a plus rien de normal. S'y trouvent d'invisibles anomalies, pouvant détruire un homme en un instant, des objets aux propriétés inexplicables défiant les lois de la physique, et surtout, l'exhausteur de souhaits, une chose indéfinie, légendaire, que certains récupérateurs de l'ombre appelés Stalker prétendent avoir déjà vu. Redrick, l'anti-héros du récit, récupère illégalement la gratte. Tant pis s'il faut faire des années de prison une fois pris. Tant pis si sa fille, qu'il aime tant, n'est plus tout à fait elle-même. Il y a longtemps que leurs cœurs sont restés dans la zone. En 1979, le cinéaste russe Andrei Tarkovsky adapte librement le roman dans un film qu'il nommera sobrement Stalker, et dont l'acronyme remplacera au fil des décennies celui du roman. Nulle récupération d'objets précieux dans ce long métrage lancinant, mais une quête initiatique d'un homme de lettres et d'un homme de science, guidé par un stalker jusqu'à la chambre qui exauce les vœux. La réalisation tout en lenteur de Tarkovsky, notamment la représentation d'une nature où se mêlent herbes folles et rouille industrielle, se font avec des dialogues révélant peu à peu l'âme et les buts cachés de ses protagonistes. En 1986, Tchernobyl. Alors que je n'avais que 3 mois, une centrale nucléaire ukrainienne explose, portant la jeunesse d'une véritable zone. Celle où le danger est invisible, où la nature devient luxuriante, mais où l'on ne peut s'y balader qu'en combinaison anti-radiation. Les frères Strugatsky l'avaient écrite et Tarkovsky l'avait filmée dans une fiction, et voici qu'elle apparaît, là, devant nous. Ses habitants portent des masques à gaz, ses immeubles sont vides, ses constructions de béton se fissurent. Ici et là, des fresques et statues témoignent encore bien présents d'un passé soviétique aujourd'hui révolu. La série Joe Stalker, commencée en 2007, c'est un peu le mélange de tout cela. La gratte à ramasser que l'on retrouve dans les livres. Cette nature anxiogène du film, où le moindre faux pas dans une touffe d'herbe anormale signifie le game over. Les radiations de Tchernobyl qui grignotent la barre de vie. Les vieilles pétoires volées dans les stocks d'armes de l'ex-URSS aujourd'hui disparues. S'y disputent des factions oligarchiques, autoritaires, anarchistes, toutes cernées par des animaux aussi monstrueux que grotesques, rappelant à quel point l'homme n'y a pas sa place. Stalker, c'est un projet transmédia non voulu, un étonnant mélange de science-fiction, mêlé d'histoire, de sociologie et de mysticisme où toujours le même protagoniste revient, le Stalker. Arpentant la zone, le Stalker est plus qu'un avatar ou un personnage. Il est cette incarnation aussi humaniste que désespérée qu'il nous arrive d'être quand, à la faveur d'un rigoureux et gris hiver, nous laissons le vague à l'âme nous envahir en l'attente de jours plus radieux. Comme si au fond, nous étions tous des Stalkers, individus multiples arpentant un monde à la dérive à la recherche d'une ultime utopie. Du bonheur pour tous, gratuitement.
De 21h à 22h, le Player Club.
Non mais c'est jusqu'à 22h, mon cher Antistar qui me disait hors antenne, il n'est pas 22h. Non, il n'est pas 22h, mais l'émission dure jusqu'à 22h. On va avoir 53 minutes pour parler du rétro, de ses prix et de ses coûts. Toujours donc avec Antistar, JB et Camui. Donc, je commence avec la première question, la première partie de cette rubrique, puisque plusieurs enchères de jeux et de consoles ont défrayé la chronique assez récemment. Il y en a une très prochainement d'ailleurs à Lyon. Ce sera le 28 novembre 2014, donc c'est cette semaine. C'est dans 4 jours. Ce sera
et
vendredi.
Et il y en a encore une après à Paris en décembre.
Chez Million encore ?
Ouais, chez Million.
Et un des points qui fait que ça défraye la chronique, c'est notamment les prix. Et beaucoup de gens s'élèvent contre les prix qui sont pratiqués là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vente aux enchères de jeux vidéo, de consoles, de machines ?
Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut. Quand on dit les prix, c'est pire en vrai parce qu'il faut rajouter en général 25% de frais. Hein. Souvent, les prix, on les dit hors taxe, mais faut encore rajouter les frais et là ça fait encore, c'est pire encore.
Là on est dans une situation, moi ce que je trouve par exemple surréaliste, c'est qu'on parle par exemple de mise aux enchères, donc on se dit ça va être des vieilles consoles, des vieux jeux, il y en a effectivement. Nous on retrouve notamment une 3DS européenne avec Pikachu dessus, 400€.
Pikachu, oui. Ouais. C'est ce qui est d'ailleurs un prix là pour le coup vraiment fumé, parce que c'est une console qui souvent, c'est de l'occasion en très bon état, parce que la plupart des gens qui ont acheté cette console en gardant en boîte en général étaient aussi joueur que collectionneur. Elle vaut peut-être entre 200 et 250. Elle n'a pas perdu du tout de son prix neuf. Neuve, elle peut-être vendre 300. Et encore, à République, dans les fameux magasins qui sont tellement critiqués pour leurs tarifs, ils en ont une neuve à 320€. Je l'ai vu il y a 3 semaines. Donc déjà.
C'est quoi l'estimation de la vente?
Elle est à 400, je crois.
400.
Estimation basse, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours estimation basse, estimation haute, quoi.
Sur le catalogue, c'est marqué 400, il n'y a pas d'autres estimations.
Bizarre. Donc, du coup, ça veut dire que l'enchère va commencer à 300 et peut-être qu'elle ne va pas partir ou elle ne va pas trouver preneur. Hein.
Probablement.
Je serais surpris que ça trouve preneur quand même.
Parfois, c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que, en fait, les mecs qui vont dans les ventes aux enchères, je les ai vus, en tout cas ceux qui allaient à Millions, ils connaissaient pas du tout comment ça marchait une salle de vente, comment un objet peut être avalé, enfin, tout ça, ils étaient pas au courant. Il y a des mecs qui étaient en train de miser de mettre des enchères sur des objets, je leur disais, mais vous savez qu'ensuite vous prenez les frais, les mecs, ils savaient pas du tout, quoi. Enfin, ça attire beaucoup de débutants aussi, qui se prennent au jeu des ventes aux enchères, quoi. Faut pas oublier.
C'est formateur pour le coup, mais bon.
Et puis en général, les ventes, surtout les ventes en vrai, hein, plus que les ventes internet, on fait quelques ventes pour se former, quoi. C'est aussi valable un peu pour internet, mais on s'entraîne un peu, on vise un objet pas trop gros et on se dit allez, je vais voir ce que ça donne, quoi. Et c'est en général les gros achats, on les fait plutôt à partir des deuxième, troisième ventes si on est content.
Mais c'est vendu aussi cher, pourquoi ? Pour se faire un peu gonfler les biceps et dire voilà, regardez, ça a de la valeur, ou est-ce que c'est simplement pour pigeonner les gens qui n'y savent rien ?
Moi je crois qu'il y a un peu des deux, mais
Et il y a aussi des trucs qui partent à moins cher, hein, faut pas oublier.
Voilà.
Hein,
Non mais c'est-à-dire que...
pour un Rockman sous blist de mes couilles là, enfin le truc qui a 10 000 euros là,
ouais.
combien il y a de super packs Master System ou Mega Drive qui sont bradés juste pour attirer des petites bourses quoi.
C'est certain.
Le... Mais... Vas-y.
Oui. Non, après, ce que je pense que toutes ces ventes aux enchères, notamment dans le jeu vidéo, c'est que ça reprend un peu ce qui se passe sur le marché de l'art. Concrètement, on voit à un moment donné, tu sais, le fameux jeu qui va partir à un prix insensé parce qu'il est neuf, sous blister, que sais-je, etc. Mm-hmm. Et qu'en fait, comme de par hasard, il y a un gars qui va l'emporter, qui remporte l'enchère et c'est formidable. Et à ce moment-là, waouh, on dit que comme c'est la maison de Rouault, comme c'est Millon qui est derrière, bon, ça veut dire que c'est un peu authentifié, que ouais. C'est une maison de sérieux. La vérité, c'est que sur le marché de l'art, que ça soit évidemment et chez Drouault et les autres, il se passe que il y a des enchérisseurs qui n'en sont pas et qu'on fait une fausse vente pour tout simplement fixer un prix. Concrètement, si moi je m'appelle Camille Coste, on va le citer, que je me
proclame... Précision, qui est Camille Coste, rapidement?
C'est le plus grand expert de jeux vidéo au monde, a priori, selon ses propres dires. Bref.
D'accord,
ok. Non, c'est tout un débat, ça.
Attendez, avant de le vanner, on va juste dire son titre, c'est l'expert des ventes Millon.
Voilà.
Celle qui se déroule à Paris en décembre.
Très bien.
Voilà, donc je force très évidemment, c'est sarcastique, mais ce que je veux dire...
Son taf, c'est d'expertiser. Après, tu sais, moi, je suis le domaine de l'art assez près. C'est plutôt mon domaine de spécialisation à part le jeu vidéo. Et les expertises, c'est fait en général à la louche. Et t'es surpris parfois des choses qui partent ou qui partent pas. Hein. C'est pas systématique.
Non, mais là-dessus, je te crois volontiers, Daniel. Mais la chose étant, tu vois, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu définis que tel produit, on va généraliser, hein, peut avoir telle cote et que tu peux toi après de côté avoir donc le stock qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que un jeu va partir mettons à 3 000 euros, c'est un exemple à la con, et très bien, donc c'est authentifié à 3 000 euros, sauf que demain moi si j'en ai 4-5 derrière moi à 3 000 euros, ça veut dire que je dis attendez, moi j'ai du stock mais ça part à 3 000 minimum, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est quand même la dernière enchère qui s'est passée, ça a été suffisamment médiatisé de par le monde, des articles ont été dessus, etc. Donc à ce moment-là, le trier le bon grain de livret, c'est pas vraiment facile pour avoir la vraie cote officielle, et je pense que le truc le plus patent,
on oublie un truc. Il y a un truc très simple qui est la loi de l'offre et de la demande. Mais tout d'un coup,
et ça c'est eux s'en réclament pour le coup de l'offre et de la demande.
Ah, je veux dire, si ça vendait pas et qu'ils faisaient des mauvaises ventes, ils le feraient pas. Maintenant, on peut trouver que c'est des prix gonflés, mais il y a des prix gonflés en magasin aussi. Il y a des prix abusés. Ça sera jamais aussi pas cher qu'un pote. Je vends ma collègue, je précise. Qu'un mec qui t'en vend en vrai ton jeu, t'as pas de frais, t'as pas de taxes, t'as pas la TVA de la boutique. Évidemment, hein, dans un monde idéal, on enlève tous les frais et toutes les taxes et tout ça. Évidemment, les jeux sont vachement moins chers, quoi. On enlève les taxes cyber aussi, tant qu'on
est. Mais ce que je crains, c'est qu'effectivement, ce nouveau marché qui d'un coup est devenu hyper à la mode et donc tout le monde s'y intéresse, tout soit un peu gonflé, on va dire, de manière artificielle. Alors, on est bien d'accord que si demain je devais commencer à vendre certaines choses, j'en ai vendu, que j'essaierai tant que se peut d'en tirer évidemment le maximum, c'est normal. Après quoi, ce qui me gêne plus là-dedans, c'est que parce qu'on va partir donc je te dis maison de sérieux, maison de Rouault, expert, donc ça rassure, et tout de suite on va te dire que voilà, donc ce tel produit va coûter telle somme. Quand je crois que j'avais vu une interview de Coste, je sais plus sur quelle chaîne, qui disait que oui, mais si on trouve des jeux moins chers, toi, notamment sur eBay, de dire mais attendez, moi j'y peux rien si les gens vendent en dessous de la cote. Sauf que peut-être qu'eBay, alors là c'est vraiment, je mets avec toutes les guillemets de circonstances tout ça, mais peut-être qu'eBay aujourd'hui c'est le marché unique. C'est-à-dire que tu regardes la somme des ventes réussies et donc sur eBay. Tu dis concrètement, sur la moyenne, sur un produit, on va prendre Earthbound par exemple, tu sais que finalement, le jeu va partir entre une fourchette de prix qui est aussi légèrement entre 50 et 100 euros, de manière générale. Et donc concrètement, si tu peux le trouver à moins cher sur eBay, quel intérêt as-tu soudainement de le payer une fortune ailleurs? Et je pense que, à ce moment-là, par rapport à l'offre à la demande...
Il y a plein de trucs, hein, l'immédiateté, t'es dans la salle de vente, il y a plein de choses.
Et t'as l'excitation qui peut évidemment pousser à faire des conneries, on est bien d'accord.
Et là,
pas la meilleure comparaison, de toute façon.
eBay, t'achètes ton jeu, peut-être il va arriver dans un état pas conforme à ce qui est marqué. Il y a plein, tu payes la garantie, c'est comme si tu payais dans la boutique à répu, tu vas payer le fait qu'il soit juste devant toi.
Ah, mais évidemment.
Antistar voulait réagir.
Oui, eBay, c'est pas forcément non plus le meilleur élément de comparaison qui soit, parce que
c'est pour ça que mettez les guillemets de circonstance. Voilà,
parce que les gens disent toujours, tel jeu est vendu à tel prix, alors que justement, eBay, avec son système d'enchères, génère des prix qui ne sont des prix pour la vraiment dans 90% des cas qui sont voulus et cautionnés par les gens qui achètent et qui enchérissent. On a des vendeurs qui savent effectivement qu'ils ont des produits qui sont des produits forcément à forte à fort potentiel. On va prendre un exemple d'un mec qui va vendre toute sa collection de jeux rétro Nintendo, Sega 8-16 bits. Il sait très bien que il va forcément les vendre très bien, et donc le gars il va se dire, moi je mets pas de prix, je mets un prix de départ à 1€ et après vous démerdez.
Ça c'est le jeu des ventes aux enchères.
Le truc c'est que on va se retrouver en fonction des phases, en fonction parfois même de la quantité et de la qualité de la collection proposée, avec des tarifs qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et ça dépend aussi parfois de la réputation du vendeur. Moi, je prends un exemple d'un jeu dont la cote d'une vente à l'autre est extrêmement fluctuante, c'est Zelda 3. Zelda 3, c'est un jeu dont je prends le cas du jeu complet quand même, hein, pour situer.
Français.
Zelda 3, voilà, le Zelda 3 français. Avec la notice, la carte, l'idée secrète, tout ça. C'est un jeu qui parfois va décoller, aller à 80-90€, pas plus que ça, ce qui reste presque raisonnable, je dirais, et parfois il va aller à 250€. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on va vouloir fixer une cote pour le jeu, on va pas savoir sur laquelle se baser, parce que il y a des circonstances qui sont pas toujours faciles à déterminer, qui vont amener le jeu à plus ou moins voir son prix exploser.
Alors du coup, tu penses que c'est quoi le prix normal d'un Zelda 3 ?
Pour un Zelda 3
complet,
c'est vraiment la question piège, parce que moi je suis quelqu'un qui a énormément fait sa collection, on va dire entre 2002 et 2012 à peu près, donc à une époque où les tarifs avaient pas encore explosé. Zelda 3 pour moi c'est un jeu qui devrait, je dis bien devrait, complet, vraiment nickel, valoir aller peut-être 60-70, au-delà pour moi c'est trop. Aujourd'hui je pense que sa cote devrait.
Mais devrait par rapport au nombre de produits, tu veux dire?
Par rapport au nombre de produits, par rapport à la quantité d'exemplaires restant dans cet état-là, parce que Zelda 3, faut pas se leurrer, en cartouche simple, ça reste quand même un jeu qui a été sorti en Europe à un bon million d'exemplaires, hein, je pense, donc la cartouche seule, la vendre 30€, c'est une hérésie complète, hein, c'est un jeu qui devrait se vendre 5-10€. Après, complet avec la jolie boîte dorée, la carte et tout ça, ça reste une relative rareté. Faut le dire, c'est sûr que c'est pas un Demon's Crest, un Vampire's Kiss ou un Pokémon Rocky 2, je suis d'accord, mais c'est quand même une pièce qui justifie de monter un petit peu. Mais monter à 200-250€, c'est juste n'importe quoi. 250€, c'est le prix auquel se vendait un Demon's Crest il y a 3 ans.
Ouais, mais du coup, ça monte sa cote naturellement. Les prochains exemplaires, ils seront à 120. Ouais, mais
exactement. Parce que c'est la loi qui est créée.
C'est la loi de l'offre et la demande, hein. Ouais, tu vas voir toute ta collection au fur et à mesure prendre un petit peu de valeur. Mais après, la seule vérité qui existe quand on vend sa collection de jeux, et j'en sais quelque chose, c'est le moment où tu la vends.
Ah, c'est la vérité de l'instant, oui.
Et si tu la vends dans 10 ans, ça sera peut-être pas le même prix qu'aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais, il y a le miroir aux alouettes aussi. Il y a tous ces mecs qui débarquent parce qu'ils croient qu'ils vont faire fortune
c'est un marché terriblement spéculatif. Et c'était pas encore le cas jusqu'à ce qu'effectivement, on ait quelques événements, comme certains youtubeurs de renom qui influent pas mal sur l'intérêt, sur le regard d'intérêt que les gens ont pour le rétro gaming, les ventes aux enchères, ce genre de trucs. Jusqu'à il y a 3-4 ans, les prix arrivaient quand même à relativement stagner, et à part des jeux qui étaient vraiment effectivement rares et dignes de ce statut, on avait des prix qui étaient relativement accessibles pour le commun des joueurs et des collectionneurs. Et d'ailleurs, c'était aussi une époque où on avait beaucoup moins de collectionneurs entre guillemets arrivistes. Je fais quand même attention en mettant des guillemets, parce qu'on a vu plein de gens qui se disent, je me lance dans le rétro gaming, je me lance dans une collection, qui parfois achètent très cher parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de meilleure offre, et qui au bout d'un an ou deux finissent par s'enlacer. Et le problème, c'est que comme ils veulent pas trop perdre d'argent, ils font quoi ? Ils revendent. Ils revendent au tarif auquel ils ont acheté. Et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi.
Mais alors, c'est pas propre aux jeux vidéo, hein, tout ça.
Ah non, non, clairement.
Parce que vous dites, je collectionnais les BD, et puis dans les années 90, il y a plein de mecs qui ont déboulé parce qu'il y avait toutes les couvertures dorées
et les couvertures qui tapaient dans l'œil étaient des générations Image en fait. Et les mecs sont mis à en acheter, mais pas genre un comics, ils sont mis à acheter des caisses de 100 comics quoi, en disant putain mais je vais pouvoir payer des bagnoles et des trucs comme ça. Et puis au bout de un an, deux ans, le marché a complètement explosé et du coup il y a des tas de mecs qui se sont retrouvés avec des boîtes entières de comics, ça a plus savoir qu'en foutre quoi. Et c'est le problème de tous ces marchés spéculatifs sur lesquels il y a des nouveaux gens qui arrivent par pur attrait, pas pur attrait du blé immédiat. Ce que tu peux difficilement faire à moins d'être très bon.
Juste pour clore le sujet des enchères, on a quelques réactions hashtag le Player Club en direct. Continuez de réagir, vous êtes beaucoup ce soir, vous êtes vivaces. Desmu qui nous dit une petite boutique de mon village avait encore 2-3 DS Pikachu pour 200€ au début de l'année. Bah voilà, hein, deux pour le prix d'une.
Ah, quand je vois Desmu et toi interagir, j'ai l'impression d'en venir en 2002 sur les débuts de Mario Museum.
C'est possible, c'est
quand
amusant.
Quand vous aviez 15 ans tous les deux.
Fouya, y a Mika sur toujours le hashtag. Tu vois comme j'invite le sujet. J'ai jamais vu une enchère de rétro à des prix honnêtes, jamais, et ça part à chaque fois. Et Taleboul sur Twitter qui nous fait une réflexion et j'aimerais bien que vous réagissiez à ça. Il nous dit le jour où on aura une révision du domaine public des jeux et une légalisation de l'abandonware, ces enchères seront finies. Est-ce que pour vous, c'est les jeux sont en libre disposition
Oui et non.
Oui et non.
Oui et non. Il y a deux exemples, enfin deux contre-exemples. Quoi. Premier exemple, Final Fantasy VII en version européenne qui à un moment donné a coûté assez cher, ça dépassait les 100€ assez facilement et qui d'un coup d'un seul s'est retrouvé en démat. Et aujourd'hui, tu le trouves assez régulièrement entre 25 et 30.
Par contre, c'est pas de l'abandonware, c'est vraiment de la vente par l'éditeur.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le principe de la démat, quoi.
Tout à fait.
Après, je suis d'accord avec ce principe de l'abandonware.
Moi, j'ai constaté la stagnation, la baisse des prix sur des jeux Treasure. Moi, je collectionnais des jeux Treasure à l'époque où j'achetais encore des jeux Mega Drive. Et puis, au fur et à mesure, tous ces jeux, ils sont sortis en version HD ou version. Et du coup, il y avait moins de demandes et je pense que c'est un truc qui peut à moyen terme faire exploser le marché parce que surtout ils changent les habitudes, pas forcément les vôtres mais celles de la génération qui vient d'après. Il y a plein de mômes ou de moins jeunes qui tout d'un coup ont pas du tout les mêmes méthodes de consommation. Pour eux là, un jeu ça sera pas sur cartouche dans un bout de plastique dans lequel on souffle avant de mettre dans la console, mais ça sera complètement des nouvelles modes de consommation, donc ils vont perdre l'attrait de l'objet. Et il faut se méfier, et je dis ça à tous les collectionneurs, mais il faut se méfier du lendemain où tout d'un coup tous ces trucs vont perdre de la valeur, quoi. Parce que c'est ce que je pense qui va arriver. Je pense qu'à un moment ou un autre, tout va perdre de la valeur.
C'est pour ça que la valeur est pas mal liée au côté objet aussi. Hein. Elle n'est pas forcément toujours liée au côté qualité du jeu ou diffusion du jeu. Si on regarde bien finalement. En mettant en opposition les jeux Super Nintendo ou Mega Drive, par exemple, il y a une explosion de cotes invraisemblable sur la ludothèque Super NES en PAL depuis 2-3 ans. Sur Mega Drive, ça reste relativement stable et honnête. C'est pas mal lié aussi au fait que Nintendo avait sorti des boîtiers qui sont en carton, qui pour la plupart ont été jetés, que ce sont des pièces qui, d'un point de vue rangement, sont un petit peu plus uniques, on peut pas intervertir les boîtes, qui du coup sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus rarement bien conservées. Et puis en plus, Nintendo, j'ai envie de dire, continuant quand même de faire pas mal vivre ces légendes de l'époque, bon, plus ou moins, parce que quand on voit F-Zero et Metroid, par exemple, on a un peu envie de pleurer, mais il y a un attrait pour tout ce qui est Mario, Zelda, alors que c'est ultra vendu, qui reste supérieur à tout ce qui va tourner autour de Sonic, alors pourtant c'est aussi une icône. Mais
c'est plutôt une icône déchue.
Oui, c'est sûr. Surtout avec Sonic Boom, j'ai envie de dire.
Sonic est en perdition depuis 6-7 ans, quoi.
Voilà.
Ouf, c'est gentil.
Oui.
Alors.
Est-ce qu'il n'était pas en perdition depuis le début?
Depuis l'épisode de Knuckles pour moi, mais bon.
Le pauvre, mais effectivement, en ce moment, il creuse. En tout cas, on ne sait pas depuis combien de temps il est dans le fond, mais en tout cas, pour l'instant, il creuse.
Ah non, il s'envole. Justement. Dans Sonic Boom, tu m'excuseras, il s'envole.
Tu peux effectivement utiliser un glitch pour faire voler Knuckles, c'est assez sympathique. Allez voir les speedruns, effectivement. On évolue un petit peu sur la conversation, on va passer directement, parce qu'on parle pas mal d'eBay en ce moment. Il existe eBay, il existe aussi Amazon, mais il existe aussi des vraies boutiques, comme par exemple Cash Converters. Est-ce qu'au final, il vaut mieux aller acheter en ligne ou en magasin si on s'intéresse à un jeu, ou est-ce qu'il y a encore d'autres astuces comme la brocante? Pour vous, quel est le meilleur moyen pour se procurer un jeu qu'on veut obtenir?
Ça dépend si on est patient ou pas.
Ouais, c'est, si tu le veux vraiment, si tu veux un jeu en particulier, de toute façon, ça me paraît d'être eBay. Tu, moi, tu le recherches et tu vas avoir des occurrences qui vont sortir, puis après, bon, à toi de faire ton choix.
Moi, je suis un peu un ancien. Moi, je dis, si vraiment t'as une pulsion et que t'as envie de te faire un jeu, il y a République et t'as très, très, très grande chance que tu vas.
Pour les gens qui sont en Paris.
Donc, tu prends un TGV.
Voilà. Mais je crois encore au truc du magasin et de la relation avec le client et tout ça. D'accord. C'est quand même assez c'est très différent de eBay. eBay, il faut attendre une semaine ou deux semaines avant d'avoir le jeu et tout ça.
Mais tu peux pas comparer un Cash Converters avec un magasin de République.
De plus en plus quand même.
Mais Cash Converters, t'as des grandes chances de sortir la queue entre les jambes si tu cherches un truc en spécifique. Quoi.
Et voilà, puis surtout que le gars qui va te le vendre, généralement, il n'y connaît rien. Donc,
moi, ce que je remarque dans les boutiques comme Cash Converters, en tout cas depuis la Suisse, c'est que les prix ont tendance à augmenter depuis à peu près un an et que simplement ils se calent sur les prix qu'il y a sur Internet.
Oui, c'est ça.
Cash fait le même problème en France, c'est-à-dire que Cash Converters, Cash Express, Easy Cash, tout ça, pendant très longtemps, d'ailleurs une période qui correspondait finalement à la bonne période des brocantes aussi pour tout ce qui était recherche de matériel vidéoludique d'une certaine période, c'était un peu un Eldorado. Hein, on trouvait souvent... Moi, je me rappelle d'une époque où, en allant une fois par mois dans un Easy Cash, je tombais sur des FF7, 8, 9 à 4-5 euros. Parce que il n'y avait pas spécialement de vendeurs qui s'y connaissaient en jeux vidéo, qui avaient vraiment envie de regarder les cotes et tout. Et au fil du temps, on a vu notamment sur les annonces de recrutement dans les Easy Cash qui recrutaient des vendeurs spécialisés en jeux vidéo, ce qui montrait quand même qu'il y avait une volonté de comprendre, parce qu'ils devaient certainement voir aussi qu'ils vendaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo.
De mieux profiter du marché en fait finalement.
Et ils ont certainement dû se rendre compte qu'en fait, pour le coup, c'est eux qui se faisaient enfler parce qu'ils vendaient des pédales, des trucs. Alors ils enflaient encore plus les gens qui rachetaient, parce que imagine quand ils vendaient fait à 5 euros, combien il l'avait racheté à la personne qui l'a ramené.
10 centimes.
Voilà. Et aujourd'hui, Cash, en fait, pour moi, n'a plus d'intérêt, à part éventuellement pour rapporter ses produits. Et encore, c'est vraiment quand on a des jeux qui valent 4-5 euros, à la rigueur, on peut leur ramener à eux parce qu'on sait qu'on arrivera à
les vendre. Mais surtout, maintenant, ils se calent sur les prix internet, je crois.
Ils se calent complètement dessus, et même parfois, ils vont au-delà. Moi, par exemple, c'est mon cas personnel, j'habite à Reims, et en centre-ville de Reims, on a deux Cash. On a un Cash Express et un qui s'appelle Planet Cash. Et les mecs, ils vendent des N64 en boîte à 150 euros. C'est complètement ahurissant. Et même sur eBay,
ça t'a pas ça sur eBay, quoi. Bien sûr.
Voilà. Et c'est juste que les mecs, ils disent, c'est du rétro gaming. On est une des deux, trois seules boutiques d'une ville de moyenne importance à vendre du rétro gaming direct en magasin. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce côté, on va aller chercher direct en magasin pour palper l'objet et tout. Et je pense que même si la plupart des connaisseurs voyant ça ont envie de dire au gérant du cash, mais vous foutez de notre gueule, je pense qu'ils doivent se dire, mais il y a certainement dans le mois, un mec qui connaît pas bien les codes, qui surfe sur cette mode parce qu'il trouve ça cool, qui va venir et qui va faire une N64 en boîte, cool. Bon, c'est cher, mais ça me fait envie, je l'avais lu à l'époque, et voilà. Et le problème, c'est dès qu'ils vendent.
On n'est jamais à l'abri de la touchette. Voilà.
Et dès qu'ils vendent, ça leur donne raison. Et ils ont aucune raison de pas continuer comme ça.
Bien sûr.
X vient nous apprendre qu'il y a des prix chers en Suisse.
Je suis
estomaqué par cette nouvelle.
C'est le principe d'avoir des hauts salaires, c'est que le reste des prix monte avec. Sinon, il y a un problème.
On est payé en Kizuna Encounter en Suisse.
En Suisse, je te dis, moi, j'ai vu quelques revendeurs suisses un petit peu malins qui allaient parfois acheter des jeux vidéo en France pour les revendre en Suisse.
S'étonne pas ça
parce que mais le problème c'est qu'ils ont de plus en plus de mal parce qu'en France ça se vend
plus
cher.
Non, je pense que tu confonds, ils sortaient les jeux de la boîte et ils foutaient des billets de banque, c'est ça qui...
En fait c'était pour Dassault. Juste bien un instant, Antistar, t'évoquais la bonne période de la brocante. Première question, est-ce qu'il y a toujours moyen de choper des trucs en brocante aujourd'hui?
Oui, mais c'est très difficile.
Alors comment on fait?
Faut se lever tôt.
Ouais, très tôt même.
Ouais, alors après il y a 150 astuces. Le problème c'est que déjà, c'est con, mais c'est le karma. Faut avoir du bol. Faut vraiment avoir du bol, ça. J'ai envie de dire, quelqu'un qui a la Skumoon, ça sert à rien qu'il insiste. Il y a un moment, tu vas dire. Moi, en brocante, j'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une bonne étoile en brocante, et même depuis 2-3 ans, on trouve rien, du coup, j'en fais quasiment plus, et quand j'en fais, je trouve encore des trucs. En septembre dernier, j'ai trouvé une NES qui était quasiment comme neuve à 10 euros avec 7-8 jeux en boîte. Mais je suis allé dans une brocante qui était complètement isolée, qui s'appelait un vide maison. Espèce de truc, mais paumé de chez paumé. Et je me suis dit, ce machin-là, je sais que les mecs qui viennent avec leur charrette entière en courant, en gueulant sur les vendeurs, est-ce que vous avez des jeux vidéo à 5h du mat avec leur lampe torche? Je sais que ces mecs-là, ils vont pas aller dans une brocante où t'as 10 pèlerins. Et du coup, en allant dans une brocante, certes complètement paumée, où il y a personne, Bah, j'ai envie de dire déjà, alors le terme va peut-être paraître malvenu en tant que simple collectionneur et par vendeur, mais on s'évite déjà la concurrence entre guillemets. Et on arrive, on sait qu'on va probablement, s'il y a des bons trucs à trouver, on va peut-être probablement être le seul à tomber dessus, parce que bah voilà, les gars qui y vont pour se faire du blé, pour revendre, pour certains même directement sur leur propre stand quelques heures après, eux ce qui les intéresse c'est les brocantes à 300-400 exposants où ils vont se pointer à 5h du mat. Et où on voit tout un tas de pratiques. Non mais
ça fait envie tout ça.
Il y a des mecs. Faut vous imaginer qu'il y a des mecs.
Je préfère aller en vente aux enchères et payer plus cher, oui. Les mecs.
Ah non mais c'est limite plus sain une vente aux enchères de nos jours qu'une brocante quand on a l'esprit qu'il y a aujourd'hui. T'as des mecs qui courent d'un stand à l'autre. Ils ne marchent même plus. Ils courent. Ils vont avec leur lampe torche la braquer mais limite dans la gueule du gars qui est arrivé avec sa voiture qui est pas réveillé, qui a même pas le temps de se faire un café, et ils lui disent vous avez des jeux vidéo sans bonjour, sans rien et tout, et après ils passent au suivant et ils font toute la brocante comme ça en courant, et surtout ils courent de plus en plus vite quand ils voient qu'ils sont plusieurs. Et au final, les rares trucs qui ramassent.
Et puis il faut faire attention parce qu'il y a aussi, ils peuvent se bousculer avec les mecs qui font ça pour les jouets.
Bien sûr.
Parce qu'il y a les collecteurs de jouets, eux, ils sont sans pitié aussi.
Complètement. Et le truc c'est qu'en plus il y en a carrément qui ramassent absolument tout, mais ils se posent même pas la question de ce qu'il y a, ils ramassent tout. Et il y en a certains qui vont carrément pousser le vice jusqu'à revendre ça sur leur stand dans la même brocante, parfois à 10 mètres du stand où ils ont acheté les trucs.
Oh, c'est des génies.
Voilà. Mais le truc, tu vois, c'est que moi, ça fait 2 ans que j'en fais plus, vide-grenier. J'ai commencé ma collection il y a 18 ans. C'était palace quoi. T'arrivais dans les magasins, la PlayStation et la Saturn venaient d'arriver en Europe quoi. Les Super Famicom, les Mega Drive, c'était 5 francs, 20 francs, enfin.
Non, ça dépend.
J'ai encore l'étiquette qui est assez.
Oui, bien sûr, mais il y avait des flux et des reflux. Moi, j'ai payé mon Final Fantasy 2 150 francs, évidemment.
Mais c'est pas cher, 150 francs.
Ça fait bizarre, mais oui, il y a aussi des moments où tu payais les jeux 440, 500 francs. Et j'ai vu des mecs qui s'abordaient déjà leur collection à l'époque. Qui se ramenaient à Score Games et ils disaient, voilà toute ma collection Mega Drive et Mega CD. Et le mec, et je te jure, c'est vrai, il venait pour acheter une Jaguar parce qu'il avait vu qu'à la télé, la Jaguar c'était la plus puissante.
Mais bien sûr.
Et du coup, voilà.
Il avait 64 bits.
Mais ce que dit Antistar est terriblement vrai sur les vide-greniers. De toute façon, moi j'ai vu les comportements qui ont évolué parce que j'en faisais tous les ans, quoi, depuis 18 ans quasiment. Et le dernier que j'ai fait, c'était dans ma ville. Donc j'ai dit tiens, je prendrai pas la voiture cette fois-ci, aller perdre de temps, de l'essence.
C'est où ta ville?
Moi, j'habite à côté de La Rochelle, à Niort, dans les Deux-Sèvres.
Ah, c'est joli.
Ouais, c'est très mignon.
Ségolène Royal, tout ça.
Eh oui, absolument. Elle est de Mel, mais c'est à côté. Mais donc dans le centre-ville de Niort, donc c'est un très gros vide-grenier annuel. Et donc j'étais avec un copain et on avait fait, mais vraiment mauvaise moisson, tu vois. 7h du matin, on était là. Mais vraiment, j'y vais les mains dans les poches. Et je voyais les mecs effectivement qui commençaient à courir, tu sais, avec les sacs. Et les sacs commençaient à être gavés de trucs. J'y laisse tomber, pour nous c'est râpé. Et puis on s'arrête sur un stand et mon copain Thierry a un coup d'œil, il fait bah attends, il y a un carton là. On ouvre le carton. Et dans le carton, il y avait plein de GBA, une NES dans un boîtier plastique, Super Nintendo, c'est gravé dessus, plein de bordel, hein. Un truc incroyable et donc on commence à mettre les mains dedans, tu vois, et on commence à dire bah attends, ça je prends. Et ben écoute, t'as des mecs qui ont fait le tour du stand, qui sont passés de l'autre côté du stand, hein, côté vendeur, et qui ont commencé à fouiller dedans. Ce qui ne se fait absolument pas, je veux dire, quand t'es sur un truc, quoi, bah tu te sers, et puis après, vous prendrez ce qui reste, hein, je suis désolé. Et on n'a pas eu la présence d'esprit, parce que moi j'en ai ras-le-bol, c'est de fermer le carton et de dire combien. Voilà, ce qu'on aurait dû faire, on ferme le carton, on donne 80 balles, on embarque le lourd,
on verra. Ils auraient peut-être enchéri par-dessus toi, hein, c'est possible. Ouais, les mecs qui font ça aussi, c'est très malsain. Ouais,
et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai pas pu, donc j'ai pris ce que j'ai pu prendre, donc j'ai quand même pris les plus belles pièces. Mm-hmm. Mais tu te sens d'un coup d'un seul, pressé, parce que t'as des gars derrière qui commencent à mettre les mains dans tes affaires, quoi. Dans tes potentielles futures affaires. Et non, mais c'est pas possible. Et tu vois, après, on avait réussi à récupérer nos machins. On se pose sur un stand. On pose donc nos machins, donc à nos pieds, hein. Et des gars qui commencent à fouiller dans nos sacs.
Alors que c'est bien pas les trucs que tu vendais, quoi.
Ouais, alors que moi, je suis en train de regarder ce qu'il y a dans un stand, quoi. Oui, il me fait bonjour, vous vendez ça combien? Non, mais c'est pas à vendre. Je viens de l'acheter, du coup, mais j'ai pas de stand, tu vois bien. Mais c'est hallucinant. Et effectivement, c'est devenu très malsain. Et là, je rejoins Daniel de dire, il vaut mieux aller sur Repu, vaut mieux aller dans les ventes aux enchères publiques, là, pour le coup.
Ah, mais moi, si ça peut m'éviter,
si je peux m'éviter les hordeurs et les trucs comme ça.
Antistar et ensuite les réactions Twitter.
Oui, non, je disais, il y a un problème de mentalité en brocante qui est incroyable, parce que quand tu regardes à l'époque où déjà on trouvait beaucoup plus de choses, où les prix étaient plus honnêtes, où le bon coin n'existait pas, parce que le bon coin a quand même pas arrangé les choses,
c'est clair.
Tu ne voyais pas, quand tu étais à un stand, que tu repérais un objet qui t'intéresse, le mec à côté, même si ça l'intéressait, ça lui serait pas venu à l'esprit, de à moitié te l'arracher des mains ou de sortir le double de ce que t'as en espèces. Aujourd'hui, tu vois ça, tu te dis, mais un, d'où sortent ces gens, deux, où ont-ils été éduqués, et de trois, comment en sont-ils venus à penser que ben on avait le droit de faire ça, quoi.
Hey, cash is king, baby, hein.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Non, puis surtout, c'est la population, tu vois, c'est que maintenant, tu vas sur des vide-greniers, tu vois des bons pères de famille, la cinquantaine, qui exposent et qui disent, ça coûte très cher. C'est-à-dire que, même
si les gars. Le bon coin, ils baissent.
Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et tu les vois, les gars, même ceux qui m'ont bousculé quand j'étais sur ce fameux stand, ils savaient pas, il y avait la cinquantaine, les gars, quoi. Et tu vois très bien à leur gueule et comment ils sont, fringués et autres, que ce sont des pouseux de je ne sais quel coin et voilà, ils savent qu'il y a une valeur. Ils savent pas ce qu'il y a de la valeur, tu vois, mais ils se disent qu'il y a de la valeur. Donc, ils achètent ce qu'ils peuvent acheter, ils ramènent donc tout en stock, et puis après, on verra ce qu'ils en font.
Ouais. Ah, mais ils se disent, c'est du jeu vidéo, il y a de la thune à faire dessus, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave.
Voilà.
C'est toujours les mêmes mecs, hein, qu'on retrouve dans les vide-greniers et tout ça, c'est, au bout d'un moment, c'est des professionnels, c'est des,
et quand
c'est
tu
des
vois
corbeaux
stand,
ils font le tour de toutes les...
Et quand tu vois leur stand, tu te marres, parce que la quantité est monstrueuse, mais la qualité est déplorable. Tu regardes ces stands-là, j'ai envie de dire,
alors
certes, t'as peut-être 500 jeux dessus, qui sont souvent archi poussiéreux, les mecs les ont pas nettoyés, ils les ont certainement pas testés. Mmh. Et puis quand tu regardes, par exemple, sur du rétro, on va dire tout ce qui est jusqu'à la N64 à peu près, le jeu le plus rare, entre guillemets, qu'ils aient, c'est un jeu qui cote, allez, 15-20 euros, quoi. Ils ont jamais un seul jeu qui vaut quelque chose. C'est ça le pire. Ils prennent absolument tout, ils savent pas ce que c'est, et comme de toute façon il y a pratiquement plus de trucs vraiment de grande valeur, bah ils ramassent tout et puis ils arrivent presque à donner une cote à des jeux. Alors certes, c'est des bons souvenirs, c'est des jeux qui peuvent être marrants, mais il y a presque des daubes, quoi. J'ai envie de dire des jeux dont pratiquement plus personne n'a rien à foutre, quoi.
Ouais, absolument.
Ouais. Dire que moi je suis habitué aux occasions à la japonaise, qui où genre vraiment faut voir l'état de ce qu'on vous vend au Japon en général. L'état, c'est entre A et A-, quoi. C'est vraiment mecs qui s'excusent qu'il y a un bouquet corné et tout ça.
Rayé, ouais.
Il y a une différence de culture et de mentalité au niveau des conservations et du respect aussi d'autrui là-bas.
Faut pas oublier que pour plein de gens aussi, c'est pour les mômes, c'est juste un objet, on se fait dans les...
Mais c'est vrai.
On n'en avait rien à foutre et c'est juste une manière différente de vendre et de relation aux clients, quoi.
Quelle réaction sur Twitter, rapidement, toujours au hashtag le Player Club, merci de réagir.
Je vends ma collecte.
Prolifique, non. Minicron qui dit, pour des néophytes en collection comme moi, les brocantes, c'est l'Eldorado, mais ces gens dont vous parlez ruinent tout. Lions Banner nous dit, moi j'ai trouvé un vendeur dans un pucier qui vendait des jeux, oui, résultat Beat the Beat et Punch Out pour 5 euros chacun, chanceux. Bien. Numa Chasso qui nous dit, il y a le même phénomène, puissance 1000 pour les vinyles. Et enfin, Broken Man qui nous dit, la brocante, 2 points, faut frapper des gens et brûler des maisons pour avoir des trucs.
C'est d'ailleurs pour ça que Brocante, je l'ai pas dit la fois où il y a une Brocante, comme ça il m'a pas accompagné, j'ai pas vu ses comportements sauvages avec moi.
Très bien.
C'est vrai pour tous les corps de métier.
En deux mots, dans ce domaine-là, quelles arnaques est-ce qu'on peut facilement éviter?
Déjà, qu'est-ce qu'on entend par arnaque?
Ouais, voilà.
Simplement, par exemple, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de dire à un vendeur, non, je veux voir le jeu tourner devant moi ou la machine tourner devant moi, acheter en vrai, acheter en magasin.
D'abord, il y a une règle absolue, c'est de toujours marchander.
Oui.
Non, mais il y a plein de gens qui l'oublient, mais genre, plus tu prends l'eau, et bien sûr, et si c'est un professionnel, si tu proposes en cash, évidemment, il sera partant, quoi. Si tu lui dis, tu viens avec ta CB, il va faire la gueule, quoi. Tout ça, c'est des trucs au black, il récupère des stocks au black. Mmh. Non, il faut pas oublier, la première des mises en garde, c'est surtout essayer de payer le moins possible, quoi.
D'accord. Très bien. Là-dessus, justement, vu il nous reste encore 20 minutes, je vais avancer un petit peu dans mon petit conducteur et je vais vous demander un truc quand même qui est très intéressant. Depuis 2007, il existe quelque chose qui s'appelle la console virtuelle, qui a commencé sur Wii, dont le principe s'est retrouvé aussi sur d'autres machines, il faut bien l'avouer, hein, même si c'est pas sous ce nom-là. Est-ce que pour vous, elle a causé plus ou moins, elle a attiré plus ou moins de gens sur le marché du rétro? Est-ce que ça, il y a un effet qui s'est ressenti pour vous?
Je pense pas trop.
Alors, oui et non, parce que je trouve que le rétro est rentré complètement dans la culture de Nintendo. Ils l'ont complètement intégré dans leur manière de jouer. Par exemple, dans Smash Bros, il y a des, tu peux débloquer les, des versions, des démos jouables de ces anciens jeux. Ce qui est un peu cracra, puisque il faut repasser à la, faut repayer après pour les avoir. Mais il y a aussi Famicom Remix, qui est un,
ouais, qui est rigolo, ouais.
qui est un chouette revival de toute cette idéologie. Donc c'est assez cohérent quand tu vois les consoles virtuelles, c'est assez cohérent dans le dans l'optique Nintendo, mais faut pas oublier aussi des trucs, des options comme le PS Plus ou toutes ces options qui te permettent d'acheter Square Enix seul de ses jeux à des prix maboule sur sur le PSN, et c'est quand même assez tentant si tu veux pas repayer des sommes hallucinantes pour ton Xenogears, pour te si tu pas repayer ton Chrono Trigger, c'est quand même une solution assez assez sympathique, et l'important c'est quand même de jouer au jeu plutôt que de l'avoir sur son étagère, enfin à mon sens quoi.
Donc pour vous, ça a tendance à plutôt retirer des clients, voire même des concurrents potentiels sur le marché.
Je pense pas que les gens qui s'intéressent à l'objet, à la question de valeur et tout ça, soient les mêmes que ceux qui ont juste envie de jouer au jeu et qui se fichent complètement de l'avoir rangé chez eux. La personne qui va jouer à un jeu en dématérialisé est quelqu'un d'absolument pas matérialiste, justement, c'est un peu de là que vient le terme dématérialisé, c'est quelqu'un qui s'en fout, qui a envie d'avoir accès immédiat, j'ai envie de dire, à un jeu dans des bonnes conditions, où il sait que le truc va marcher tout de suite, où il pourra y jouer autant de fois qu'il veut. Je pense pas que les à part éventuellement les gens qui ont joué à ces jeux à l'époque, qui les ont gardés, qui bénéficient d'une promo, ils disent « Ah ouais, tiens, c'est vrai, je me le referais bien directement sur la console dans mon disque dur. » Je pense pas que ce soit les mêmes personnes de toute façon.
Alors,
la plupart du temps.
Je peux parler en l'occurrence de mon cas. Moi, j'étais un grand acheteur, un grand collectionneur, et ça m'a vraiment passé, et je sais que maintenant je suis passé vraiment beaucoup plus à l'étape des maths. Sur ma 3DS, j'ai une carte de 32 Go, et je télécharge au fur et à mesure les jeux qui m'intéressent vraiment de jouer, et je trouve que c'est ma manière de consommer le jeu, de jouer justement, a changé, puisque maintenant j'essaye d'y aller à fond. J'essaye de pas acheter un stock de jeux. Même au Japon, la dernière fois que j'y étais, j'ai acheté vraiment que ce que j'avais besoin pour ma consommation personnelle. Et du coup, comme c'est dématérialisé, il n'y a plus le blitz et plus la pression de pouvoir le revendre le même prix. Parce que souvent, on l'oublie, mais les jeux en nouveauté, 95% des jeux qu'on peut acheter sur le marché ne vont rien coûter plus tard. Il faut pas l'oublier. Même si on le garde dans un état impeccable, si t'achètes ton GTA 5, il y a de très fortes chances que personne n'en ait rien à foutre dans 10 ans, quoi.
Ah bah, GTA 5, dans 5 ans, il vaudra 10 euros, hein.
Bah, exactement. Donc, si tu veux vraiment, enfin, c'est le seul conseil c'est le vrai conseil qu'on peut donner aux gens, c'est si vraiment ça t'intéresse, joue aux jeux vidéo, mais si c'est pour faire une collection de jeux comme on collectionne les timbres, je te conseille les timbres, c'est beaucoup plus rentable, il y a beaucoup plus de blé à se faire.
Je te conseille
les œuvres d'art, il y a beaucoup plus de pognon, ou carrément l'immobilier, là c'est carrément la certitude. Et même là, tu peux y perdre de l'argent, même dans l'immobilier, alors faut faire gaffe, quoi.
Après, si tu veux être vraiment malin, vaut mieux faire soi-même les œuvres d'art plutôt que les vendre et les racheter. Mais ça, c'est
si tu t'en sors l'âme d'artiste, mais c'est quand même. Si on parle de 95% des jeux dont on a rien à foutre, il y a 99% des gens qui n'ont pas le talent de le faire. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Peut-être quelques réactions sur Twitter avant d'avancer. Resga nous dit la console virtuelle, c'est la porte d'entrée vers l'intro gaming physique pour beaucoup. Donc il voit quand même ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça attire l'attention et qu'ensuite les gens vont arriver sur le marché. Vous pensez que ça
Pour moi, un collectionneur, être toujours collectionneur dans l'âme, je pense que tous les gens qui font de la collection de jeux vidéo, ils auraient fait de la collection d'autres choses. Il y a un truc de pulsion dans la collection. Je l'ai vu parce que j'ai vu des potes qui ont revendu leur collecte, mais qui ensuite ont re-racheté derrière. Même moi, qui ai arrêté la collecte, mais qui ensuite je me suis refait ma collecte sur je m'achète des jouets de temps en temps ou des choses comme ça. Je pense que c'est un truc de l'ordre de la pulsion, la collection.
La
collection, c'est un truc vachement vicieux, c'est un truc obsessionnel compulsif. Hein. Moi, je le sais parce que j'ai une autre collection à côté de ma collection de jeux vidéo et j'ai eu à chaque fois des phases.
Et c'est quoi?
Les disques de Nirvana. du groupe Nirvana.
C'est plus que louable.
Voilà. Et en gros, j'ai eu des phases où je me disais, ça reste le groupe qui m'a le plus marqué. Je tiens assez disque, mais je serais quand même mieux de la revendre parce que j'ai plusieurs milliers d'euros à me faire derrière. Puis parfois, je regarde la collection de jeux et je me dis, je devrais peut-être revendre tel ou tel
jeu. Plusieurs milliers d'euros de vinyle de Nirvana.
Oui.
Oh la vache, mais t'en as acheté genre 1000 à 1 euro.
Non, il y a vraiment des disques de Nirvana qui sont super rares.
Il y a les japonais et tout ça, mais
pas les japonais, mais il y a des pressages limités, des vinyles de couleur notamment.
Plusieurs milliers d'euros, waouh.
Le disque, non, il y a un ou deux disques qui dépassent vraiment le millier d'euros à eux seuls, mais non, c'est beaucoup par contre de disques qui valent entre 100 et 500 euros. Il y a beaucoup de disques dans ces cas-là, ouais.
Et après, c'est comme les jeux vidéo, hein, c'est... Tu sais le prix réel une fois que tu l'as vendu. Hein,
ouais. L'avantage, c'est que là, par contre, c'est une collection qui reste au niveau des cotes assez stable. Hein, j'ai envie de dire, même si c'est un groupe qui a quand même pas mal marqué son histoire, il n'y a pas de revival, j'ai envie de dire, par rapport à... il n'y a pas un regain d'intérêt pour ce groupe qui, du coup, ferait décoller les cotes ou les enterrerait pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est une collection qui est vachement marginale.
La parole toujours anti-star pour le coup, puisqu'un auditeur nous demande toujours au hashtag le Player Club, c'est Keikun qui te pose la question. Salut à vous tous, question pour anti-star, quelle a été la plus belle pièce que tu as trouvée en brocante?
Un FF7 PC9 à 1€.
Ah, pas mal.
Et c'est cher, un FF7-9.
Bah, pour donner une idée, alors là, il y a des gens qui vont me tuer et m'incendier quand je vais dire ça. C'est qu'il y a un moment où j'avais, c'est pas que j'avais spécialement besoin de thunes, c'est qu'en fait, je joue pas sur PC, je collectionne pas les jeux PC, FF7, j'ai sur PS1. Je me suis dit, ouais, non, allez, vas-y, je le revends. Non. Je suis foutu sur eBay, il est parti à 200€.
Ah, quand même.
Bon, donc en fait, j'ai vendu 200€ un truc que j'ai acheté en brocante, 1€, 20 ou 2€.
Bah, c'est de la pure spéculation, hein.
Bah, disons que, elle est à moitié assumé parce que c'est pas l'intention. Après, bon, je me suis dit, bon, évidemment, en l'achetant 1€, je vais pas leur vendre 1€, hein. Je suis pas stupide non plus. Après, je me suis dit, bon, c'est vrai, le FF7 en big box, cartonné comme ça, il vaut peut-être bien, effectivement, 80-100€. Après, le mien avait cette particularité d'être archi neuf. En fait, j'étais tombé sur un stand d'un groupe de quinca qui avait plein de jeux PC en, bah, cet ancien format, les grandes boîtes cartonnées, j'ai envie de dire, la seule époque du jeu PC qui est encore pas mal collectionné par les gens. Et je sais pas s'ils revendaient les jeux de leurs gamins ou quoi que ce soit, mais en fait, ils avaient une trentaine de jeux, ils étaient tous à 1€, sans exception. Et je n'y connais rien en jeu PC, honnêtement, mais j'ai vu FF7 dans le tas, je me suis dit, bah oui, je vais quand même me le prendre parce que c'est une belle pièce, quoi.
Donc c'est une plus-value de 199€.
Ouais, concrètement. Après, si je parle de ce que j'ai encore chez moi comme vraiment très belle pièce, je pense que c'est un pack Super NES Super Mario Kart, hein, ça c'est sûr. Surtout que je l'ai eu en 2011.
Ah, pas mal, oui, effectivement. Oui.
Et oui, que je l'ai payé 50€ et qu'il manquait le jeu et que quand je suis revenu au stand, la nana m'a dit, prenez un autre jeu à la place et dans ces jeux, il y avait Suikoden. Donc voilà.
C'est sympa.
Après,
bonne journée.
Les meilleures affaires, c'est les jeux dont on s'y attend pas et qu'on achète genre dans le flux, c'est-à-dire 6 mois après sa sortie et tout le monde s'en fout et tout d'un coup il prend une cote. Enfin, j'ai acheté Giga Fukai Saphir à sa sortie, ça m'a coûté 350 francs et parce que la jaquette me plaisait, parce que je savais ce que c'était et j'étais content et j'ai fait ça pour Radiant Silvergun, je l'ai payé 360 francs.
Oh là,
merci les copains. Mais voilà, enfin, mais pour tous ces deux exemples, combien de jeux, enfin, j'ai aussi Deep Fear sur Saturn que j'ai acheté le même jour que Saphir, je l'ai acheté 360 francs et je sais pas si je peux le revendre plus de 10€.
Il est à moins de 2.
Je lance un appel. Voilà. Je vends du pire.
C'est une bonne
musique de Kenji. Musique de Kenji, quoi. Ouais.
Il y a pire, il y a acheté des jeux de merde très chers le jour de leur sortie avec des économies de gamin. Moi, j'ai un objet dans ma collection de jeux qui me fait marrer à chaque fois que je le vois. Moi, je suis pas très blister, hein. J'aime bien en avoir un ou deux de temps en temps, mais j'ai Ultraman sur Super NES sous blister. Et Ultraman, tout le monde sait que c'est probablement un des jeux les plus daubés de tous les temps. C'est vraiment une grosse merde. Et dessus, il y a un prix affiché de 500 francs.
Oui.
Et je me dis, putain, j'espère vraiment que le mec qui l'a acheté à l'époque était un mec qui avait son salaire et que c'est pas une famille de smicards qui a offert ce jeu à un gamin pour son anniversaire, au point même qu'il a chialé en voyant que c'était un jeu pourri et qu'il a même pas voulu le déballer, quoi.
Mais c'était encore une époque où il y avait ni internet, il y avait que des magazines de jeux et
on achetait basé que là-dessus.
Et on achetait souvent, et moi j'ai acheté j'ai acheté Is et Phantasy Star comme ça aussi, hein. Je les ai achetés en regardant les photos de la jaquette à l'arrière, hein, Et ça a marché, hein.
Rapidement, une dernière réaction Twitter qui illustre bien ce que vous disiez par rapport au jeu récent, mais qui monte vite en prix. SSorni 3 pour Lion's Banner, 2 ans après sa sortie, je le cherchais, environ 90 euros.
Ouais.
Ça illustre assez bien. SSorni 3 sur 3DS.
C'est pas étonnant, ouais. Il y a un truc qu'on a presque abordé, je crois que c'est Antistar qui vient d'en parler, le coup des blistes. Mmh. Alors ça pour l'occurrence, le coup des blistes, je pense que c'est une macro arnaque. Enfin pas une macro arnaque, mais j'ai vu les jeux Super NES vendus dans le paquet, l'emballage plastique d'époque. Mmh. Mmh. Et ça doit intéresser 3 mecs en tout, qui ont le cash flow pour mettre, enfin je veux dire, les mecs qui payent 6000 euros pour un Rockman et.
C'est l'aspect le plus pervers de la collection de jeux rétro.
Clairement. Et genre, et moi, j'ai vu ça dans les comics, par exemple, les mecs, ils foutent leurs comics dans des boîtes et ils les touchent plus et c'est juste une note. Il y a une note sur l'état et voilà. Et
eux, c'est pire parce que ça veut dire que le comic, ils l'ont lu, qu'ils l'ont réemballé après.
Oui, là, il y a.
Ils y toucheront plus.
Là, il y a carrément de contact.
C'est un objet qui n'était plus neuf puisqu'il a eu un vécu. Encore le jeu neuf, il est encore, j'ai envie de dire, ça fait 20 ans qu'il est dans un emballage auquel jamais personne n'a touché. Je dis pas que ça justifie le prix, mais je peux comprendre le côté.
Que ça a plus de valeur et que.
Jamais touché, quoi.
Moi, le seul truc que j'apprécie dans les blisters, c'est que ça me rappelle les rayons des magasins en 94, quoi. Mmh. Parce que c'est un truc que t'as plus trouvé après.
Attention,
c'est pas spécifique à la France.
Parce qu'il y a les blisters, plus les blisters avec l'opercule en haut qui a pas été percé,
Tout abordé après,
Il y a différentes classifications, ça, c'est une espèce de petite bataille, effectivement, dans le domaine. On a beaucoup parlé des prix. Une fois qu'on s'est constitué une collection, on va parler aussi des coûts. Que ça coûte de l'entretenir, parce qu'on quand même on a des vieilles consoles, on a des cartouches, on a des CD. Est-ce que ça peut revenir cher d'entretenir sa collection?
Ça dépend à quel point t'es méticuleux.
Voilà.
D'accord, mais enfin, précisément, c'est dans quoi qu'on investit dans ce genre de cas?
Un endroit sec.
Oui.
Des meubles Billy de chez Ikea.
C'est ça, oui.
Ah ouais, on a tous des Billy.
On a tous des Billy, ouais.
Il y a les boîtiers de protection transparents, là, que pas mal de gens ont.
Je pense qu'il se coûte, en fait, c'est le temps plus que de l'argent, parce qu'une fois que tu l'as, quoi.
Le temps, oui.
Le temps, ouais, parce que tu vois, par exemple, moi qui commence à avoir depuis un petit moment, c'est vrai qu'il est pas rare que parfois, tu sais, je sorte une PC Engine et que j'y allais, c'est parti, on va faire la séance toaster, quoi. Donc, tu sors toutes tes U-cards et tu les passes les unes après les autres, tu les laisses tourner pendant 5 minutes. Ok, ça marche, ça tourne, histoire qu'elles prennent un peu d'électricité, que tu les fasses un peu revivre, et pour mieux les ranger plus tard.
Tu leur fais des massages cardiaques.
Mais tu sais, c'est limite ça, puis c'est comme ça que je me suis rendu compte récemment que mon interface unit ne veut plus fonctionner du tout, que j'étais très très frustré parce que voilà, et puis parce que forcément t'as des pièces qui hélas lâchent. Mmh. Donc effectivement, de temps en temps, je prends des cartouches, je fais tourner des CD, je redonne en fait un peu de vie à toutes ces machines pour les décrasser un peu parce que je pense que ça leur fait du bien de tourner, nettoyer notamment les connecteurs et compagnie. Ça prend un temps terrible.
Tu fais vite ta collection en tout cas.
J'essaye tant que se peut, j'essaie parce qu'effectivement moi j'ai pas forcément le temps de m'en occuper non plus. Généralement quand je fais ça, c'est quand je suis avec deux trois copains cette soirée. Youpi, on se pose dans le salon, on sort les bécanes.
Et t'as plus d'amis depuis, parce que putain, le mec qui boot une minute chaque jeu et ça va.
Non mais toi, ouais, je crois que c'est plus le temps. Enfin, je sais pas ce qu'on pense Daniel ou Antistar, mais parce que l'argent, si tu veux vraiment à la rigueur, tu sais, t'achètes les petits boîtiers plastiques là qui coûtent une fortune là sur Super NES de manière générale. Pour bien les remettre dedans, et ça coûte très cher, ces putains de boîtiers.
Mais les boîtiers plastiques, c'est comme les espèces de capsules pour les cartouches Game Boy que tout le monde avait à une certaine époque, non?
Ce sont des
VGA. Tu parles du VGR?
Je parle simplement, tu sais, des je sais pas si ça s'appelait comme ça d'ailleurs, en parenthèse, je parle totalement sans connaître le nom, mais pour beaucoup de cartouches Game Boy, t'avais un petit emballage plastique qui encapsulait le truc.
Là, t'encapsules carrément la boîte, en fait.
La boîte de jeu, ok.
Ouais, c'est un plastique qui est vendu à plat, que tu formes avec tes petites mains, et en fait, ça fait une boîte en plastique dans laquelle tu glisses la boîte en carton.
Pour pas que la boîte de carton se défonce ou prenne l'humidité.
Ouais, ça permet surtout de les rigidifier.
D'accord.
Et là, ça a des boîtes qui ont vraiment souffert. Et là, tu te permets d'avoir en fait une boîte rigide, tout simplement.
Ouais, j'ai un petit bémol à émettre sur cette histoire de boîtiers plastiques. Alors, je vais un peu les troller, les boîtiers plastiques.
Lesquels? Les VGA, tu parles?
Ouais, les VGA. Ouais, ces boîtiers, parce que justement, on a dit en plus, ça sert à rigidifier les boîtes. Un collectionneur, souvent, il cherche quand même à avoir les pièces qui l'intéressent dans le meilleur état possible. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est devenu déjà très difficile de trouver un jeu complet, donc quand on trouve complet, on est déjà content. Le truc, c'est que j'ai discuté de ces boîtiers plastiques avec pas mal de collectionneurs, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment utile, surtout pour les gens qui ont des boîtes qui sont pas excessivement bien conservées, qui sont un peu usées, qui sont pas complètement écrasés, bien sûr, mais qui sont.
Alors, il faut savoir que le VGA, tu l'envoies à des mecs aux États-Unis et les mecs, ils te font une note sur la qualité de ta boîte.
Je parle pas de l'estimation VGA. Ah. Je parle vraiment des boîtiers plastiques transparents qui sont vendus pour ranger tes jeux dans une.
D'accord.
Pas de l'estimation. Ce truc-là, à titre perso, je trouve vraiment là que ça va trop loin. C'est mon avis, mais je trouve vraiment ça. Enfin, là, pour le coup, pour moi, c'est de la branlette, hein, ce truc-là. Et pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup avoir des jeux en super état.
Je sais que la branlette, c'est pas mal, mais.
Mais c'est sûr que t'es parti dans son stade. Je sais que je m'y connais quand même.
Ouais, mais branlette avec mes boîtes de consoles et de jeux, c'est pas trop mon délire. Je laisse ça à d'autres.
Si tout d'un coup, on te disait que. Attends, t'as quoi? FF7, ton FF7, si tu le mettais dans une boîte, tu l'envoies dans un institut, ça te coûte, allez, $20, j'en sais rien. Et on te le renvoie, et que là, la valeur de ton FF7 prend $100. Est-ce que t'es pas intéressé ou pas?
Pas plus que ça, parce que la plupart des jeux que j'ai sont pas destinés à la revente un jour. Ils sont pas vraiment.
Tu vas être enterré avec.
En fait, c'est pas. Moi, j'accorde évidemment une valeur financière à pas mal de jeux que j'ai. Je leur accorde aussi une valeur quand même
sentimentale.
Et gonfler comme ça une valeur via une expertise que je trouve quand même extrêmement élitiste, je trouve ça assez bidon.
Ah, c'est sûr,
je trouve que c'est
leur truc. Hein.
Pas vraiment représentatif de la réelle valeur du jeu. Et puis voilà, le truc, c'est que j'estime que je suis déjà assez méticuleux, assez chiant et assez relou avec mes jeux vidéo, ma collection auprès des gens autour de moi, même auprès de copains qui sont gamers, hein, je veux dire. J'ai pas envie d'en rajouter une couche, je trouve déjà que j'en fais trop, alors là, ce serait. Enfin, encore une fois, c'est que mon avis, mais je trouve là que ça va vraiment trop loin. Il y a certains paliers, je trouve, dans la collection, la conservation des jeux, que je trouve vraiment trop mal. Ça, en fait.
On trouve toujours plus fou que soi. Hein. Moi, j'ai vu le mec qui était fou des emballages d'origine de la N64 là, et enfin avec son GoldenEye et tout. Et il avait, quand il en parlait, il avait les yeux d'un maniaque, tu vois. Et on trouve toujours un peu plus dingue que soi.
Vraiment deux secondes pour répondre à cette question-là. Comment bien se débarrasser, se défaire de sa collection? Je sais que toi, Camus, justement, t'es en train de te défaire de la tienne, en tout cas par partie.
Oui.
Tu t'y prends comment?
Alors moi, j'ai un peu de la chance. J'ai un de mes meilleurs potes qui est le plus gros collectionneur un des plus gros collectionneurs de France et qui a vendu sa collection pour que les gens situent qui a vendu sa collection intégrale de complet SNES et tout ça. Et donc je lui envoie une liste de ce que je veux vendre et il me fait une cote mais très 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 honnête quoi. C'est-à-dire qu'il va pas en ma faveur forcément et pour l'instant je l'ai fait tourner qu'aux amis. Et la liste en question avec les cotes, j'ai eu quelques ventes et après
je le fais dans le salon privé après.
Ouais. Et après je vais sans doute le mettre sur mon blog, sur Twitter moi je suis @CamusRobotics et
Camui.org pour le blog. Allons-y.
Camui.org et je vais graduellement, je vais me débarrasser. D'abord, je me suis débarrassé de la SNES. Je vais me faire débarrasser.
Comment peux-tu te débarrasser d'une SNES?
Et ensuite, je vais faire. Tu sais quoi? En fait, comment puis-je? Et un jour, tu découvres que tu vas pas être enterré avec et que ça n'a pas autant de valeur. Tu fais. Il faut que tu vois ce truc sur ton étagère et que tu te dises merde. Est-ce que je vais un jour y rejouer? Est-ce que je vais un jour réutiliser tout ça? Est-ce que c'est pas en train de pourrir sur mon étagère? Et c'est ça ma principale motivation, plus que le pognon. Même si je sais que y a un tout petit peu de pognon, mais il faut pas, comme disait le philosophe Doc Gynéco, faut pas mentir aux jeunes.
Doc Gynéco dans le Player Club. Moi je dis.
Je peux pas. Il faut croire. Je collectionne depuis que j'ai 12 piges. J'ai vraiment beaucoup de jeux. J'ai vraiment énormément de jeux en Jap et tout, j'ai que des versions Jap et honnêtement c'est pas ça qui va me faire je vais pas m'acheter une Renault Espace en neuf quoi, tu vois, c'est pas tellement d'argent que ça quoi. Il faut comment puis-je ? Bah en fait, c'est pas tant de pognon que ça et ça prend énormément de place. Et
je disais comment tu peux par rapport au fait que c'est la Super NES et que c'est vrai que ça reste la console de mon enfance. Moi j'ai revendu tout ce qui était Sega par exemple parce que j'étais moins attaché. Donc toi ça va être pareil avec
la semaine prochaine, je fais la liste pour la Mega Drive et graduellement, je vais toutes les faire et je vais garder que les jeux qu'on m'a offert ou les jeux que j'ai une espèce de valeur sentimentale, mais vraiment c'est un tout petit peu parce que en étant dans la après je sais que j'ai annoncé ça sur Twitter et il y a plein de gens qui m'ont dit oh là là tu peux pas faire ça, mais en même temps il y a des mecs qui collectionnent les Nike et il y a les mecs qui mettent des cotations de 1000 euros sur des chaussures qui ont jamais été portées. Enfin après il y a tellement de pognon pour plein d'objets qui ne le méritent sans doute pas, et je pense que tout ça c'est de la place qui ne le mérite sans doute plus à mon avis. Si je veux vraiment faire Super Mario World,
tu le prends sur console virtuelle.
Voilà.
Désolé, ce sera le mot de la fin. Il est déjà 22h. Merci.
C'est terrible pour les collectionneurs d'avoir cette espèce d'avis négatif. Franchement, les mecs, surtout, il y a un truc qu'il faut leur dire, c'est qu'ils faut acheter en fonction de ce qu'ils aiment, pas en fonction de ce qu'ils croient, que ça va valoir, parce que c'est le meilleur moyen de se faire entuber.
Faites-vous plaisir, c'est le mot de la fin de cette émission. Merci à mes trois invités. JB qu'on retrouve sur Twitter @theplayer, Antistar qu'on retrouve sur Twitter @antistar, mais à la place du i vous mettez un L, et Camui @camuirobotics. Vous retrouvez les références de nos invités sur la page de téléchargement de l'émission. J'ai plus que quelques secondes pour vous dire que le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain à partir de 21h en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Et maintenant, c'est l'heure de passe le stick, les mecs, bonsoir.
Salut. Je savais pas qu'on était dans Turbo, j'ai entendu ça parler d'espace.
Écoute,
ça parlait de chaussures, c'était terrible.
J'ai volé Dominique Chapat aujourd'hui. Quels invités vous avez de votre côté?
Eh bien, nous sommes tous seuls, il n'y a que 4 personnes.
D'accord.
C'est le conseil des 4 ce soir. Voilà.
C'est écrit sur le site, il y a 2-3 lunatiques.
Et
on a oublié,
bonne émission avec le conseil des 4. À bientôt.
Merci.